Tous les jours à partir de 9h, l'équipe d'Okapi Service se met entièrement à votre service. Santé, consommation, droits du citoyen, éducation, conseil au monde rural. Des spécialistes répondent en direct à vos questions. Avec ONG Partenaire, l'emploi, le conseil du jour et Service Plus, trouvez des pistes simples pour améliorer la vie de tous les jours. Okapi Service, l'émission libre au service de la Radio de la Paix.
Dans les hôpitaux et centres de santé, certains médecins et autres personnels soignants commettent des erreurs médicales. Il peut s'agir d'une négligence ou une imprudence, un défaut d'information du patient, une erreur grossière des diagnostics, une erreur des traitements ou une erreur technique. Cela peut occasionner une invalidité chez les patients ou soit la mort, entraîner la mort de ces patients. Alors, quelles sont les dispositions légales en cette matière? Que dit la loi congolaise à ce sujet? Maître Charles Mouchizi est avocat au barreau de Kinshasa. Matete, encore une fois, bonjour.
Bonjour.
Comment la loi congolaise définit l'erreur médicale?
L'erreur médicale n'est pas définie de manière claire par la loi, mais elle peut participer à d'un certain nombre de faits, d'un certain nombre d'agissements du médecin qui ne respecte pas son code de déontologie ou qui viole fondamentalement la loi pour ce qui est des devoirs du médecin. L'article premier du texte qui organise l'art de guérir en République démocratique du Congo met à charge du médecin l'obligation de respecter la vie et de la protéger en tout état de cause. Et donc tout peut partir de là en termes de faute ou de devoir, de violation de devoir, si l'agissement du médecin viole son devoir justement de protéger la vie et de la respecter lorsqu'il agit dans le cadre de sa profession.
Voilà, il peut arriver qu'un médecin, par exemple, néglige, a été négligent ou imprudent. Par exemple, on oublie une compresse, les chirurgiens ont oublié une compresse dans le ventre, dans le corps du patient opéré, et que cela pose des problèmes plus tard.
Il a effectivement été jugé déjà, il y a de la jurisprudence sur ça, des médecins qui ont laissé des pièces métalliques dans le corps d'individus, et ces faits ont été considérés comme des fautes graves dans le chef de médecin. Et donc, il y a une large jurisprudence qui a déjà tablé sur ce genre de questions. Par contre, il faut définir avec un peu plus de circonscription la faute médicale par rapport à l'imprudence. L'imprudence est difficilement démontrable du fait que le médecin, par son état, n'a pas une obligation des résultats. Il ne peut pas s'engager à guérir absolument un malade. Il fait recours à des procédés, à des méthodes qui sont démontrées, qui ont une certaine crédibilité et par lesquelles d'autres qui l'ont précédé de son passé pour alléger la souffrance d'un malade ou le guérir éventuellement, mais il ne peut pas s'engager à guérir un malade parce qu'il n'a pas d'obligation de résultat.
Alors, mais si prenons le cas du médecin qui a oublié une compresse ou bien le bistouri dans le ventre du malade et que cela pose des problèmes plus tard et le malade se rend compte que c'était à cause de cela ou la famille, disons, si la personne est décédée. Alors, quelles sont les démarches à suivre et qu'est-ce que la loi dit à ce sujet? Est-ce qu'il y a des sanctions à l'encontre de ce médecin?
Il y a nécessairement des sanctions lorsque la faute est avérée, dans le cas d'espèce, lorsqu'il a oublié un corps étranger dans le corps humain. Ensuite, ce moment-là, il a agi avec beaucoup de négligence, beaucoup d'imprudence peut-être. Alors, on a d'abord des sanctions sur le plan professionnel qui vont de blâme jusqu'à la radiation, mais aussi on a des sanctions sur le plan de responsabilité civile pour la personne qui se trouve être préjudiciée par un acte médical, par un acte chirurgical ou par tout autre acte posé par un médecin dans l'art de guérir. Et donc, toute personne qui se trouve préjudicié par un acte médical et un fait avéré, présenté et prouvé devant le juge, peut obtenir des réparations sur base de l'article 258 du Code civil livre 3 de la République démocratique du Congo, qui considère que tout fait quelconque qui cause préjudice à autrui oblige de la part de la personne par laquelle la faute est arrivée de réparer ce fait-là. Et donc là, le juge appréciera la hauteur des réparations qu'il faut attribuer à la victime.
Mais la loi ne spécifie pas que voilà, pour telle faute, il faut telle sanction il faut telle ou telle autre sanction. Ça, c'est pas
dans le cadre
précisé.
Du code de déontologie des médecins, oui, parce que c'est quand même un code qui est établi par une ordonnance de 1970, et donc c'est un texte qui a force de loi. Mais là, c'est un texte qui s'applique en interne de la profession. Pour le reste, il est difficile d'établir un fait infractionnel clair sur base duquel un médecin peut être poursuivi. Bon, à la limite, il peut être poursuivi pour homicide involontaire, ça veut dire il a donné la mort sans vouloir la donner, du fait qu'il a peut-être recouru à des méthodes et à des approches qui ne sont pas encore avérées, qui n'ont pas encore suffisamment de crédibilité, ou qu'il a fait un mauvais usage d'un certain nombre de procédés, ou administré plutôt des médicaments qui étaient inappropriés. Il peut être poursuivi pour homicide involontaire, et en ce moment, il va être condamné.
Et il peut arriver, par exemple, qu'un patient arrive, le médecin ne l'informe pas suffisamment sur les contre-indications d'un produit, d'un traitement, ou sur les risques que cela peut entraîner. Et le malade va prendre les produits, et puis voilà, le malade décède.
La loi dit, justement, à ce propos, que le médecin doit agir avec correction. Il doit agir dans le souci primordial de conserver la vie. Il doit agir pour protéger la vie. Lorsqu'il a agi dans le sens inverse, contraire à ces trois principes qui sont établis par l'article 18 du Code de déontologie des médecins, il commet une faute. Mais maintenant, si nous en venons à la mort du patient, il aura commis un homicide. Qu'il soit volontaire ou qu'il soit involontaire, c'est quand même un homicide. Mais pour des fautes purement professionnelles, il y a des barèmes de sanctions qui sont prévus par le code, et ça part du blâme jusqu'à la radiation. Donc on peut trouver bien des médecins qui sont radiés du corps médical parce que ils ont été incompétents ou ils ont posé des actes graves qui mettent en danger justement la vie humaine qu'ils sont censés protéger au sens de l'article 1er de la loi qui organise la profession, l'art de guérir.
Comme et quelle est la sanction réservée en cas d'homicide involontaire?
En cas d'homicide, de manière générale, la loi prévoit un maximum de 20 ans de prison au maximum.
20 ans de prison. Voilà, donc nous parlons de l'erreur médicale que dit la loi congolaise à ces sujets. Et maintenant, comment porter plainte? Parce qu'on peut se rendre compte que le malade a été opéré, le médecin a oublié une compresse des dents, il va voir un autre médecin qui découvre cela et qui couvre, parce que il arrive parfois que les médecins se couvrent entre eux. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire?
Lorsqu'ils se couvrent entre eux, ils cumulent des fautes, ils les partagent, ils partagent la responsabilité. En fait, l'erreur médicale ne peut généralement se faire découvrir que par une contre-expertise. Lorsque vous venez de chez un médecin et qu'il a essayé de vous administrer tout ce qu'il pouvait, croyant en lui-même qu'il est en train de protéger, de préserver votre vie, et que finalement les résultats ne sont pas avérés, vous pouvez recourir justement à un autre médecin. Et le médecin, par son serment d'Hippocrate, s'engage justement à ne pas entacher de mensonges son diagnostic, à ne pas le gonfler inutilement. C'est véritablement un devoir de vérité, une obligation de vérité que le médecin a, et ça se concevrait difficilement que 3-4 médecins qui font un diagnostic sur un même individu, sur un même patient, puissent se cacher mutuellement des erreurs de leurs collègues précédents. En ce moment-là, de toute évidence, ils commettraient systématiquement la même faute, et des fautes lourdes, en tout cas graves, pour leur profession.
Donc, alors, s'il faut sanctionner tous ceux qui ont couvert le médecin fautif, seront également sanctionnés par la loi?
Oui, mais à supposer, par exemple, que mort s'en est suivi et que le patient est décédé, ils auront tous été... Le premier aura été certainement l'auteur principal de ce crime, mais les autres pourraient être traités soit de complices, soit de co-auteurs au sens des articles 22 à 24 du Code pénal congolais livre 2. Et donc, en ce moment-là, il leur sera appliqué la même peine celle qui est appliquée à l'auteur principal.
Bien, nous avons en ligne Dieu merci à Sanjo depuis Kisangani. Vous voulez également participer à cette émission, appelez au 081 890 63 94.
Chaque jour, la fréquence de la paix unit le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des grands lacs à la mer, Radio Capi en direct de toutes les provinces à 8h45, 12h15, 17h20 et 17h50, heure de Kinshasa. Le tour de province, vivez les informations avec les reporters de Radio Okapi.
Que dit la loi congolaise à propos de l'erreur médicale? Dieu merci à Sanjo, vous êtes à Kisangani, bonjour.
Bonjour à la Radio Okapi, bonjour à tous les auditeurs ainsi qu'à notre invité.
Dieu merci, quelle est votre question?
Ah oui, bon, les erreurs médicales sont devenues de plus en plus récurrentes dans notre pays. Et là, je propose au gouvernement d'instituer même un programme de lutte contre les erreurs médicales. Maintenant, la question que je pose à l'invité, est-ce que quelqu'un qui n'a pas fait la médecine légale peut trancher le conflit d'une erreur médicale?
Bien, merci. Ignace Ndala de Colisi, bonjour.
Bonjour, je dis, j'ai d'abord une anecdote. Il y a quelqu'un qui est allé à l'hôpital. Un médecin lui dit, voici des permanganades. Ça, c'est une histoire que j'ai vécue. On donne des permanganades, on lui dit, tu vas boire cela après avoir mangé. Heureusement, quand le médecin descend, il le rencontre et dit, est-ce que tu as utilisé les permanganades? Tu as mis ça dans l'eau? Il dit, Non, j'étais sur le point d'avaler cela, je viens juste de terminer à manger. Heureusement que cela, et le pire n'est pas arrivé.
Qui lui a, un instant, Ignace, qui avait demandé au patient d'avaler le produit?
Le médecin. Donc, il a commis une bêtise, au lieu de lui dire comment il fallait utiliser, il dit, tu prendras ça après avoir mangé.
Ah. Oui.
Mais, heureusement, on a évité le pire. Maintenant, une autre préoccupation.
Et qui a aidé le malade à ne pas avaler?
Non, le même médecin en passant a cité, il l'a vu.
D'accord.
S'il avait utilisé le produit, il dit, okay. Non, je viens de manger, je vais maintenant boire. Je dis, non, attention, n'allez pas boire. Heureusement que cela, le pire a été évité.
D'accord.
La deuxième situation, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de médecins, mais de par leur spécialité, nous savons qu'il y a des spécialistes et des généralistes. Mais vous allez consulter un médecin pour, par exemple, un dermatologue. Donc, il y a un centre. Lui est en fait un dermatologue, mais vous allez là-bas avec un problème de gastrique. Quand vous arrivez là-bas, au lieu qu'il renonce, dire et vous oriente vers le spécialiste du domaine, donc le médecin du domaine, le spécialiste, mais lui s'entête, excusez le terme, à vous soigner et que des situations graves arrivaient. On peut parler cela d'erreurs médicales et on peut considérer cela dans le cadre du sujet du jour ou pas. Voilà un peu ce que je voulais savoir.
Bien, merci. Maître Charles.
Est-ce que un médecin qui un juge qui n'a pas fait la médecine légale ou un médecin qui n'a pas fait la médecine légale, je sais pas, est-ce
qu'une personne qui n'a pas fait la médecine légale, est-ce qu'elle peut juger une erreur médicale?
Non, nous sommes en face d'un cas de procès ouvert par exemple et où le juge est saisi sur fond d'une faute médicale qui a causé préjudice. En ce moment-là, puisque le juge n'est pas expert en tout, il fera recours à une expertise externe pour démontrer justement si dans telle circonstance cette faute est établie ou pas. En tout cas, c'est ce qui est d'habitude fait devant les cours et tribunaux. Lorsque une matière échappe au savoir ordinaire du juge, il recourt toujours à des personnes externes pour l'éclairer sur cette matière.
Voilà, Ignace Ndala de Colisi, il a donné une histoire, il nous a raconté une histoire, comment le médecin a dit au malade, va prendre ces produits, et le malade, pour lui, c'était qu'il fallait avaler le produit. Heureusement que le médecin est passé par là et le pire a été évité. Alors, il parle d'un dermatologue qui va traiter quelqu'un, a des problèmes gastriques, il va voir un dermatologue, au lieu de l'orienter vers le spécialiste, il préfère absolument prodiguer des soins.
Un médecin, lorsqu'il fait application des méthodes qui ne sont pas déjà de notoriété dans la profession, d'une certaine crédibilité dans la profession, il commet des fautes. Pour ce qui est des spécialités dans le domaine médical, il va de soi que un médecin ne peut pas s'arroger justement le pouvoir de traiter des maladies sur lesquelles il n'a aucune expertise.
Mais s'il arrive qu'il ait fait, est-ce qu'il s'agit-il d'une erreur?
Ça, c'est une faute. C'est une faute. Déjà sur le plan déontologique, ça, c'est une faute qui peut valoir radiation du médecin.
Augustin Chabani, vous êtes à Kindu. Bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
Que dit la loi en cas d'une annonce d'une pathologie grave? Quand un médecin annonce à ses patients qu'il y a mettons que le cancer ou bien une maladie virale, inguérissable. Mais le patient, il vient de décéder, on ne sait pas, le médecin, il sera condamné ou bien on va l'interpréter quelque part.
Le médecin annonce à un patient que vous êtes atteint du cancer, vous allez mourir ou vous avez une maladie incurable et cela précipite la mort du patient. Est-ce qu'à ce moment-là, il sera poursuivi ou pas? S'agit-il d'une erreur ou pas?
Il s'agit d'une grave erreur qui est déjà prévue par l'article 30 du code de déontologie qui dit que le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec la plus grande attention, sans ménager son temps, en s'aidant dans toute la mesure du possible des conseils les plus éclairés et des méthodes scientifiques les plus appropriées. Ça veut dire que lorsqu'il exerce sa profession, notamment pour ce qui est de la phase d'établissement du diagnostic, le médecin ne peut pas agir seul. Il doit pouvoir travailler avec les laboratoires, il doit travailler avec ses aînés qui ont déjà connu des cas similaires, il doit se faire entourer, se faire conseiller, de manière à établir un diagnostic rigoureux et le plus véridique possible. Il ne faut pas que le médecin se cache évidemment derrière le fait qu'il n'a pas une obligation de résultat, il n'est pas obligé de guérir, mais il doit savoir que lorsqu'il donne un diagnostic au sens de l'article 30 du code de déontologie de médecin, il doit être le plus véridique possible, être sûr qu'il a recouru aux méthodes et aux approches de la profession qui soient les plus appropriées possibles.
Alors, si je comprends bien, la loi n'a pas prévu des sanctions spécifiques pour les erreurs médicales, mais la loi se réfère au code déontologique, aux sanctions prévues par les codes
qui gèrent. En fait, la profession est essentiellement gérée par le code, mais lorsque des faits précis constitutifs d'infractions sont commis par les médecins, en ce moment-là, il y a immédiatement recours au code pénal congolais, parce que c'est lui qui prévoit et punit des faits qui sont infractionnels. Il peut s'agir de coups et blessures volontaire ou involontaire, il peut s'agir d'un homicide volontaire ou involontaire, il peut s'agir de l'administration des produits nocifs à la santé de la personne qui peuvent avoir causé la mort ou pas, mais l'essentiel c'est d'avoir administré ces produits nocifs. Il peut s'agir de toute autre infraction justement qui porte qui est commis par le médecin dans le cadre de sa profession, qui constitue préalablement une faute du point de vue de la profession, mais qui constitue en même temps une infraction à la lecture du code pénal congolais.
Richard Kachai de Kanyoka, bonjour. Et quelle est votre question?
Oui, bonjour monsieur le journaliste et bonjour à l'invité.
On vous écoute.
J'ai une question à soumettre à l'invité qui est celle de savoir par rapport au cas sous examen, quelle est la différence qui existe entre l'erreur, la faute et l'accident qui peut être commis par le médecin dans l'exercice de sa profession? Et aussi, quel conseil à un médecin qui a un grand mécanisme d'affectation qui se permet de soigner les gens qui sont au centre d'organiser un poste de santé dans ce sens-là? Et de deux aussi.
Pardon, Richard, on n'a pas bien suivi la question. Qu'est-ce que vous avez dit?
Oui, je demandais la différence qui existe entre ces trois concepts, la faute, l'erreur et l'accident.
Et la question suivante?
Oui, l'accident qui peut être commis par le médecin dans l'exercice de sa profession.
La question suivante?
Et la question suivante, c'est celle de demander quel est le conseil qui peut être prodigué à un médecin par l'invité qui a un numéro d'ordre, mais qui n'a pas d'affectation, qui se permet d'organiser un poste de santé à la maison, peut-être, pour commencer à soigner les gens dans ce sens-là. Et aussi, troisièmement, c'est seulement pour savoir, le fait pour un médecin d'opérer un patient et d'oublier le bistouri dans l'abdomen, cela peut être considéré comme une faute, une erreur, ou dans quel sens lui pourrait au moins éclairer la lanterne?
Merci. Maître Charles.
L'erreur est généralement considérée comme un fait bénin qui est pardonnable, quelque chose qui peut relever d'une inattention de quelqu'un, de la part de médecin en l'occurrence. Mais une erreur peut être constitutive de faute lorsqu'elle devient grossière, une erreur grossière. Le fait d'oublier, comme dit l'auditeur, un bistouri dans le corps d'un patient constitue une erreur grossière, une faute grave. Par contre, un accident, c'est un fait imprévisible et qui dépasse les capacités de la personne qui est en présence, qui notamment le médecin. Donc c'est un fait imprévisible dont on ne peut pas forcément assumer la responsabilité du fait que ça vient sans votre volonté, ça vous dépasse en termes de capacité d'intervention ni de prévention et ça cause des dégâts malheureusement. Et donc la question de savoir finalement comment on établit la responsabilité sur dans ces trois cas de figure relève de l'appréciation du juge pour ce qui est de la diligence avec laquelle le médecin a agi, du savoir qu'il a mis en branle pour apporter le secours au patient. Et voilà, donc ça va s'apprécier du cas par cas, au cas par cas. Et il est difficile de dire d'emblée que pour telle erreur particulière, il doit être passible de ceci ou de cela. Donc les conséquences et le cas par cas d'appréciation du juge peuvent aider justement à trouver des solutions. Par contre, pour ce qui est de l'exercice de la profession par un médecin qui n'a pas d'affectation mais qui veut avoir de quoi survivre, l'exercice habituel de la médecine, comme dit l'article 34 du code de déontologie des médecins, sous quelque forme que ce soit au service d'une entreprise ou d'une collectivité, doit être licite, ça veut dire conforme à la loi. Quand on dit conforme à la loi, ça veut dire que le médecin doit d'abord être reconnu par son ordre de médecin. L'ordre de médecin doit pouvoir expertiser ces lieux d'exercice et les agréer préalablement. Il doit être licite. Se conformer à la loi, ça veut dire aux règles de la profession aussi, mais aussi aux règles préalablement établies par l'autorité ordinale qui est le conseil des médecins, le conseil national des médecins, qui est en même temps l'autorité disciplinaire qui applique les sanctions en cas de violation de texte.
Richard, Alidor Kaloulwa est à Lubumbashi. Bonjour, et quelle est votre préoccupation?
Bonjour, la radio Kati. Je voulais juste poser une question en rapport avec la réalité qu'on a vécue. Il y a un médecin qui avait demandé à son infirmier, à une infirmière là, de produire un dérivé à un patient qui était dans un cas grave. Et l'infirmière en allant, au lieu de prendre le produit qui lui a été indiqué par inadvertance, elle a pris un autre produit, elle l'a mis dans les seringues. Le médecin est venu, il l'a piqué. Par rapport, on avait senti que le patient vraiment avait réagi très mal et directement, ça lui a conduit même à la mort. Alors, j'aimerais demander à l'invité, par rapport à ces faits, comment sera l'imputabilité de la faute de ces cas qui avaient été aussi.
Bien, merci. Boniface Mboulou de Kananga, bonjour. Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour aussi à l'invité du jour. Je voulais demander un peu, est-ce que un mauvais emplacement d'un centre de santé ou d'un hôpital, c'est aussi une erreur médicale ou bien ça ne fait pas partie d'une erreur médicale?
Mauvais emplacement, qu'est-ce que cela veut dire?
Bon, c'est-à-dire que lorsque un médecin place sa maison comme une place de traitement, il commence à traiter les gens dans sa propre maison et il ne va pas avec les gens à l'hôpital ou au centre de santé proprement dit, et il place les gens chez lui pour les traiter. Ça fait partie d'une erreur médicale.
D'accord. L'invité va répondre tout à l'heure. Commençons par la question d'Alidor de Lubumbashi. Il dit que c'est un cas qui est arrivé à Lubumbashi. Le médecin demande un produit pour piquer le malade. L'infirmière va prendre un autre produit. Et sans le savoir, le médecin a injecté le produit et le malade a mal réagi et il en est décidé. Alors, qui emporte la responsabilité?
En principe, lorsqu'un médecin fait des prescriptions, il signe de son nom. Son nom, sa signature, etc. avec
sur
son
l'ordonnance.
Ordre de, voilà. Et donc, je vois mal comment il ferait des prescriptions et que ces prescriptions ne soient pas respectées du point de vue de l'achat des médicaments voulus. Mais si cela est une situation qui est arrivée, on est en présence d'une administration de substances nuisibles. Et ça, c'est une infraction qui est déjà prévue et punie par le Code pénal livre 2.
Quelle est la sanction?
La sanction va jusqu'à 20 ans de prison maximum.
Donc on prend ça pour un cas d'homicide?
Oui, parce qu'entre temps il a dit que mort s'en est suivie. Mmh. Donc ça peut, on ne sait pas, on ne peut pas dire d'emblée si c'est volontaire ou c'est involontaire, parce que de toute façon, si cette administration a été volontaire, on est proprement dans le cas de d'homicide volontaire. Si jamais c'était par inadvertance et que cela est démontré, mais cela ne serait pas aussi facile. Facilement se démontrer s'il y a une ordonnance du médecin qui prescrit des produits bien clairs. Mais véritablement, s'il n'y a pas eu cette ordonnance, cette prescription, ce qui est difficile à établir quand même, on se trouverait dans un cas de figure d'homicide involontaire.
Voilà. Et Boniface de Kananga nous dit que le médecin, au lieu de traiter les patients à l'hôpital, il les traite chez lui à la maison. S'agit-il d'une erreur médicale?
Ce n'est pas une erreur médicale, mais une faute déontologique. Parce que l'Ordre national des médecins expertise préalablement les lieux d'administration de soins avant qu'ils soient mis en fonctionnement. Et donc, lorsque ces lieux n'est pas certifié conforme par l'Ordre national des médecins, ça devient une sorte d'exercice clandestin de la profession. Mmh. En ce moment-là, ça devient une faute déontologique et pas forcément une faute médicale. Une faute médicale ne peut se concevoir que dans le cadre de l'exercice de l'art de guérir, conformément au décret de 1968 qui organise justement en République démocratique du Congo l'art de guérir.
Parce qu'il y a des cas comme ça arrivés, le médecin amène le malade chez lui à la maison, et le malade fait une hémorragie, une grande et grave hémorragie et décède. Après, le médecin disparaît. Avec tous les gens du quartier, ils disparaissent.
Ça, c'est un crime véritablement, parce que cet exercice clandestin de la profession, si il donne lieu à des préjudices aussi graves, qui à des atteintes graves sur la vie humaine, le médecin aura en même temps violé la loi et le code de déontologie. Parce que, comme je le disais tout de suite, l'article premier du décret de 68 qui organise l'art de guérir en République démocratique du Congo met à charge du médecin l'obligation de respecter la vie et de la protéger en tout état des circonstances où il agit comme médecin. Et d'ailleurs, on est même, c'est vrai que c'est pas des cas qui arrivent souvent, mais il a même l'obligation de ne pas exiger une contrepartie à l'avance avant son intervention. Il doit d'abord intervenir, être sûr qu'il a porté secours aux patients qui
et si les patients arrivent, ça arrive dans certains hôpitaux, le patient arrive, on ne le touche pas parce qu'il n'y a pas d'argent. Et si le malade en décède, on peut les poursuivre. Ou on poursuit l'établissement.
Bon, il faut dégager ici la responsabilité de l'État pour ce qui est des établissements de santé appartenant à l'État. Parce que l'État doit être capable de mettre à la disposition des médecins les moyens nécessaires de fonctionnement. Alors, les questions de paiement deviennent ultérieures. Heureusement qu'il y a des hôpitaux comme Galima, par exemple, qui n'exigent rien de l'entrée du malade. Mais ça ne peut pas se concevoir qu'un malade soit d'abord là, mis à l'écart, en attendant qu'il paye pour qu'il reçoive les soins. Non. Le médecin, s'il comprend son devoir de protéger, de promouvoir la vie en toutes circonstances, doit comprendre que ça ne peut pas se concevoir qu'il passe à côté d'un patient souffrant qui vient se faire admettre dans un centre de soins et qu'il en reste un peu indifférent. Ça devait constituer en principe une faute déontologie si le Conseil national des médecins était un peu plus regardant. Parce que effectivement, ça viole le devoir premier du médecin, qui est celui de protéger la vie en toutes circonstances.
Voilà. Prenons le cas, par exemple, d'une infirmière qui administre très mal une piqûre. Et voilà, le malade s'en tire avec une certaine invalidité.
Ça, c'est déjà arrivé. Je crois que c'est un cas qui est même en instruction au parquet de grande instance de Matete aujourd'hui. Il y a un médecin qui a trait en justice pour avoir fait des injections sur le même endroit plusieurs fois sur une dame qui s'en est retrouvée avec des pus, des amas de pus, et puis finalement elle ne sait plus bouger la jambe. C'est un cas qui est en train d'être examiné, mais c'est véritablement un cas qui peut justement donner lieu à des réparations civiles au cas où la faute du médecin est établie.
Quel type de réparation?
Les dommages et intérêts essentiellement. Et donc, en principe, le patient devrait être rétabli et remis dans ce qu'on appelle en droit la situation du statu quo ante, ça veut dire tel qu'il était avant d'avoir subi
les situations. Et si cela n'est plus possible?
Si cela n'est pas possible, n'est plus possible, en tout cas, le médecin sera condamné à réparer avec des dommages et intérêts le patient.
Alors, quelle est la procédure maintenant pour porter plainte et comment réunir les preuves?
Pour porter plainte, c'est facile. Ce sont des cas pour lesquels il faut immédiatement saisir la police judiciaire ou directement le parquet. Vous pouvez aussi saisir directement le tribunal. En fait, lorsque vous saisissez la police judiciaire ou le parquet, vous venez, vous écrivez une plainte dans laquelle vous décrivez clairement les griefs que vous mettez à charge du médecin. Et cette plainte est instruite et fixée éventuellement devant le tribunal si jamais il y a des faits qui sont avérés. Mais les gens ont l'habitude de recourir directement devant le juge par une citation directe, et ça c'est une possibilité que donne la loi parce qu'ils estiment par exemple que au niveau du parquet on va considérer que c'est pas des faits infractionnels qui sont établis, ils vont classer le dossier sans suite, ou pour éviter de subir la longueur de l'instruction du parquet qui peut prendre 3-4 mois pendant que le malade est dans une situation d'urgence où il a besoin d'être réparé rapidement. En ce moment-là, il va en citation directe directement devant le juge, et le juge statue sur le cas et en recourant éventuellement à des expertises extérieures pour essayer d'étayer les faits, pour essayer d'éclairer sa religion afin de dégager son intime conviction.
Dieu merci, l'IFACA nous a écrit de Kinshasa. La loi congolaise est sur le papier et loin d'être mise en application parce qu'il y a une absence totale d'une structure compétente de médecine légale qui doit suivre ces dossiers. Chaque jour, on enregistre des morts suite aux erreurs des médecins. Qu'est-ce que vous pouvez dire à Dieu merci?
À Dieu merci, je peux dire que c'est un problème structurel du pays. Je ne sais pas s'il y a une administration qui marche.
C'est la médecine légale qui est censée constater les erreurs.
La médecine légale a un certain nombre d'attributions, notamment pour ce qui est de l'aide lorsqu'il faut faire
Mais la médecine légale. Des investigations, des enquêtes.
Oui, la médecine légale, c'est une médecine qui essaye d'établir un point de collaboration entre la médecine pure et les règles de droit qui existent. Pour ce qui est notamment d'établissement d'un certain nombre de responsabilités. Mais bon, l'école ne fonctionne pas, on n'a pas beaucoup de médecins légistes, autant qu'on n'a déjà pas de cardiologues en nombre suffisant. Il y a beaucoup de gens, beaucoup d'enfants qui sont obligés de partir à l'extérieur pour des petites opérations de cœur qui auraient pu se faire ici. Donc il y a encore énormément de carences pour ce qui est de l'évolution de la science chez nous. C'est vrai, c'est une responsabilité politique, hein, il faut le dire, parce que sincèrement, si l'école ne fonctionne pas, si l'école ne donne pas les expertises, ne fournit pas l'expertise nécessaire dont a besoin une société, la société s'expose elle-même justement à un certain nombre d'incapacités, elle expose la vie.
Prenons par exemple un malade on amène quelqu'un d'urgence à l'hôpital, les infirmières qui sont là, sans connaître l'état de la personne, allez, on perfuse. Or, c'était un sujet diabétique, il y a eu des complications plus tard, et quand le médecin arrive après, il constate que c'était la mort était déjà inévitable. À ce moment-là, qui emporte la responsabilité?
En principe, la personne qui a administré le produit emporte la première responsabilité, notamment sur le plan pénal, lorsqu'il s'en est suivi la mort. Mais l'établissement au sein de laquelle travaille cette personne doit être condamné au titre de civilement responsable et payer en même temps que l'auteur de cette infraction les dommages et intérêts aux victimes qui vont se présenter. Malheureusement, lorsque l'irréparable est arrivé, ça devient dommage, même les réparations ne peuvent pas rétablir la vie d'une personne. Mais donc, il faut travailler.
Donc, l'infirmière, là, va faire la prison.
Elle va faire la prison, certainement, parce qu'elle va être condamnée à une peine de prison lorsqu'il est avéré, justement, qu'il y a eu mort d'homme. Que ce soit par homicide involontaire ou volontaire, lorsqu'il s'en est suivi mort, du fait de cette administration inadéquate des produits, la responsabilité pénale est totalement établie.
Bien. Maître Charles Amouchizi, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Merci. Bonne journée et bon début de semaine.
Merci, bonne journée à vous.